RMC, 19h20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, en direct de Hautacam, au terme de la première étape des Pyrénées, la première étape de haute montagne de ce Tour de France 2025 qui a donc livré sa vérité. Et la vérité, c'est que Pogacar est bien le plus fort de tous. Vingegaard n'a fait que de la figuration aujourd'hui. Tous les autres, eh bien, ont été éparpillés par le champion du monde, vainqueur sortant de ce Tour de France, qui a tapé du poing sur la table et qui a sans doute aujourd'hui définitivement remporté ce Tour de France. Il reste évidemment 10 jours avant d'arriver à Paris. Mais à moins d'un problème, à moins d'une chute, on l'a vu hier, c'est toujours possible, eh bien Pogacar s'imposera dans une dizaine de jours sur les Champs-Élysées et remportera son quatrième Tour de France. Tout le monde est un peu sous le choc ce soir au terme de cette étape. Toute l'équipe s'attendait évidemment à une domination de Poggi, même si après la chute d'hier, on pouvait espérer ou on pouvait penser peut-être que Pogacar serait en difficulté. Ça n'a pas été le cas. Jérôme Coppel, Jérôme Pinault, Pierre-Yves Leroux sont évidemment dans la place. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Bon, alors un peu sous le choc, un peu comme si vous aviez fini un combat de boxe là ce soir.
Non.
Non.
Non, mais qu'est-ce que ça aurait été s'il avait pas chuté hier notre ami Tadej, c'était prévu, c'était
prévisible,
voilà, qu'il assomme le tour aujourd'hui. On avait des interrogations avec sa chute. Bon, bah voilà, il a mis tout le monde d'accord.
Les interrogations ont été levées et rapidement, puisque Pogacar a attaqué à plus de 11 km de l'arrivée, quasiment au pied d'Hautacam, après l'énorme travail des Visma, qui leur est revenu comme un boomerang en pleine poire. Les Visma n'ont rien pu faire, Vingegaard n'a rien pu faire. Il termine très loin du champion slovène. C'était donc tout à l'heure dans l'Intégral Tour sur RMC.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Vous êtes des amours, les montagnes pyrénéennes évidemment aujourd'hui pour la première étape du triptyque pyrénéen.
60 km à parcourir et toujours cette échappée, mais ça commence à être difficile pour certains garçons de ce gros groupe qui comptait au départ 52 coureurs.
On est en train de s'épailler sur la route du Tour, c'est incroyable,
il y en a partout dans le col.
Bruno Armirail fait un numéro aujourd'hui du côté de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale à 38,5 km de l'arrivée. Dans la descente, eh bien, il a repris les garçons qui étaient passés devant lui au sommet. Il n'y a plus personne avec Vingegaard. Vingegaard est tout seul. L'accélération de Narvaez est suivie par Pogacar et Vingegaard. Ça y est, on est au pied de la dernière difficulté d'Hautacam. Narvaez qui va lancer la fusée. Pogacar, très certainement, dans quelques instants, il se retourne. Narvaez et Vingegaard qui cale. Déjà, attention, Pogacar qui accélère. Il reste 12 km à parcourir. Pogacar s'en va tout seul.
Il est déjà en train de fondre sur Bruno Armirail. Il est en train de s'envoler, Tadej Pogacar.
Le Tour de France est plié. Tadej Pogacar qui va s'imposer dans un instant, le dernier virage sur la gauche là pour le champion du monde. Il est le vainqueur de cette première étape de haute montagne.
Jonas Vingegaard, deuxième de cette étape, derrière Tadej Pogacar. Il se retourne et il passe avec 2 minutes 10 de retard sur le champion du monde.
RMC, l'After Tour.
Voilà, des écarts dingues. On va vous rappeler les classements tout d'abord. Classement de l'étape et classement général, Pierre-Yves, parce que franchement, on est pas sous le choc, mais on est dans l'admiration de Pogacar qui a aujourd'hui vraiment éparpillé la concurrence.
On est sous le choc quand même.
Oui, un peu sous le choc.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, avec les écarts qui sont quand même très, très importants. Surtout après une première étape, comme tu le disais, simplement, première grosse étape de montagne. Donc, Tadej Pogacar s'impose aujourd'hui devant Jonas Vingegaard à 2 minutes 10. Florian Lipovits, dont on aura l'occasion aussi d'en parler tout à l'heure, est troisième, 2 minutes 23. À 3 minutes, Johannessen. Oscar Honley arrive ensuite. Notre premier Français, Kevin Vauclin, est à 3 minutes 33. Remco Evenepoel, qui a bien géré toute cette journée en grande difficulté, ne finit qu'à 3 minutes 35 en 7e position. Félix Gall, Primoz Roglic et Rodriguez complète ce classement. Rodriguez termine à 7 minutes 26 quand même, en 10e position. Et puis du côté du classement général, bien forcément ça bouge parce que Benili lui a été très très vite en difficulté, coup de chaud dans le Soulor. Tadej Pogacar, au soir de la première étape d'Épinay, possède 3 minutes 31 d'avance sur Jonas Vingegaard et 4 minutes 45 sur Remco Evenepoel. Lipovits est quatrième, Vauclin est à 5 minutes 40 en cinquième position, Honley Roglic, Johannessen, Félix Gall et Jorgensen complètent ce top 10. Le dixième, Jorgensen, est déjà à 12 minutes 12.
Voilà, impressionnant évidemment, des chiffres qui donnent le tournis. Alors, c'est pas la première fois que Pogacar nous épate depuis quelques années. Il est vraiment le maître du cyclisme, sans doute l'un des plus grands champions de l'histoire de ce sport. Ça se confirme année après année et course après course. Cette saison 2025 est incroyable de la part de Poggi. Messieurs, est-ce qu'il arrive encore à vous impressionner, Jérôme ?
Ah bah oui, oui, il arrive encore à m'impressionner. Tu dis peut-être l'un des plus grands. Pour moi, c'est le...
Eric Marx.
Pour moi, il est au-dessus, parce que le cyclisme est moderne maintenant. On l'a... voilà, il est vraiment international, ce cyclisme. Il est là toute l'année. On a déjà dit que dans le cyclisme moderne, maintenant, on a les ultra spécialistes des classiques. Après des grands tours, Tadej Pogacar, il fait tout. Oui, il arrive encore à nous impressionner, en tout cas à m'impressionner. Typiquement, aujourd'hui, je ne pensais pas qu'il allait attaquer à 12 km du sommet, quasiment au pied d'Otakam. Surtout le lendemain d'une chute, je pensais qu'il allait encore attendre dans les 3-4 derniers kilomètres. Donc oui, il est encore surprenant, Tadej Pogacar. Mais bon, quand t'es le plus fort, il y a moyen de surprendre. Et dans l'autre sens, eh ben, on est aussi surpris, on en parlera plus tard, mais par la tactique de Visma Lisobike.
On sentait aujourd'hui, Jérôme Pinot, qu'il était en mission, Tadej Pogacar. Il avait été agacé.
Ça fait 4 ans qu'il a la montée d'Otakam dans la gorge.
Oui, on rappelle qu'il avait connu quand même une sacrée défaillance ici, même en 2022, il y a 3 ans. Ouais.
On a la chance d'être près de la ligne, donc après... avoir fait le direct, on est allé avec Jérôme parce qu'on est passionné, voir les coureurs, la tête des coureurs arriver. Puis j'ai eu cet échange rapide, mais sincère, avec Mauro Gianetti qui me disait, il l'avait là depuis 4 ans, il avait en travers de la gorge l'humiliation qu'il a subie sur cette montée d'Otakam. Et à partir du moment où il a rassuré ses coéquipiers sur ses possibilités d'aujourd'hui, puisque après la chute, il avait quelques doutes, il était remonté comme une pendule, Tadej Pogacar. Il avait vraiment envie de taper un grand coup et d'humilier à nouveau, lui, à son tour, Vingegaard sur ces pentes-là. Et quand il a l'idée d'humilier, ça va vite et ça va très fort et ça fait des écarts monstrueux.
C'est amusant parce que Mauro Gianetti, il n'a pas voulu nous parler à nous, à la presse, en revanche. Hein. Il a refusé toutes les interviews donc à cet endroit qui est juste à côté de nous.
Il n'est pas le seul. Hein. Vingegaard ne s'est pas exprimé non plus. Hein.
Oui, Mauro Gianetti était juste à côté et c'était amusant, effectivement, de vivre ces moments-là. L'arrivée de Tim Wellens également, ses premiers mots, c'est « je me sens très bien ».
Je me sens très bien.
Et on l'a remarqué parce qu'il a tout fait péter aujourd'hui.
Et Mauro Gianetti a dit « j'ai vu ». Et à l'inverse, Pavel Sivakov, le Français de cette équipe, est arrivé. Il a dit « je suis désolé, je n'ai pas été à la hauteur ». Mauro Gianetti a dit « c'est pas grave, tu auras des jours meilleurs, on compte sur toi plus tard ». On apprend plein de trucs après la ligne. C'est rare qu'on soit si proche du fond de ligne, comme on appelle ça. Donc après l'arrivée, quand il y a tous les journalistes. Et voilà, il y a des petites phrases qui passent comme ça qu'on arrive à entendre et c'est très sympa.
On a même vu Poggi à 2 mètres de notre camion, juste en dessous, faire sa récup en roulant sur les rouleaux un petit quart d'heure, répondant aux interviews justement en train de rouler sur les rouleaux. Il avait l'air, alors évidemment marqué, c'est normal après un tel effort, mais quand même franchement, après ce qui s'est passé hier, moi je n'imaginais pas qu'il soit aussi impressionnant aujourd'hui.
J'étais comme toi, je pensais qu'il allait être un petit peu dans le dur et finalement...
Je l'avais mis vainqueur d'étape, mais j'avais un petit doute quand même.
Ouais, on avait un petit doute. Après, on dit toujours que c'est plutôt 48 heures plus tard. Attendons le chrono de demain pour voir, même si après... Même si ça n'a pas eu l'air d'être trop grave, on avait entendu pendant le direct l'interview de Mauro Gianetti qui disait « il a bien dormi, tout va bien ». On ne savait pas si c'était vraiment un discours pour rassurer. On sait que les équipes écoutent aussi les interviews des adversaires, etc. Bon, finalement, la chute n'a pas l'air de lui avoir posé trop de problèmes. Bon, bah, tant mieux pour Tadej Pogacar, tant mieux pour son équipe. On espérait du coup que ça relance un petit peu le suspense et que Visma Lisebike en profite. Ils ont tenté le coup, malheureusement. Tadej Pogacar, malgré sa chute, était 2 jambes au-dessus de tout le monde.
Très bien, l'humiliation de 2022 est donc désormais enterrée, loin derrière lui. Tadej Pogacar, évidemment, qui avait le sourire derrière la ligne d'arrivée avant de monter sur le podium. On l'écoute.
On a fait un super travail, l'équipe a vraiment bien conduit. Chapeau aussi Ben Hilly d'avoir essayé de défendre le maillot. Vous ne savez pas comment votre corps réagit après le crash, mais ce n'était pas un crash si mauvais. Je ressens mes jambes seulement quand je fais de grands mouvements, mais ici je suis juste en train de conduire, donc ce n'est pas une grande flexion. C'était un jour difficile pour tout le monde, mais au final, nous étions super forts. Nous avions cette étape à l'esprit depuis longtemps, et nous l'avons fait. Je pense que cette étape peut aller aujourd'hui pour Samuel et pour toute sa famille, parce que c'était vraiment triste. Je pensais à son dernier kilomètre, à la difficulté que ce sport peut être et à la douleur qu'il peut causer.
Tadej Pogacar, donc serein après la ligne d'arrivée, on le serait à moins puisque les écarts sont abyssaux, on va y revenir dans un instant. Alors il y avait un spectateur attentif aujourd'hui, il était dans la voiture de Christian Prudhomme, le directeur de la course, et le président de la République qui a fait sa petite balade habituelle sur le du Tour. Il n'était pas là l'année dernière, mais il est revenu ici même à Otakam où il était déjà venu, et il a observé de très près, hein, c'est évidemment une position privilégiée d'être dans la voiture de Prudhomme, et il a ensuite analyser la course au micro de Nicolas Pelletier. On écoute le président de la République, s'il vous plaît.
C'était une étape superbe et de la générosité. On est fiers de l'enfant du pays. Bruno, il a attaqué, animé cette course. C'était sublime. Kevin aussi s'est battu. Vous avez vu comment il est remonté. Donc on a deux Français qui ont eu un cœur énorme malgré la chaleur et qui se sont battus. Après, il y avait un avion de chasse.
Qu'est-ce que vous avez dit à la fin ?
Non, j'ai dit qu'on l'a suivi tout du long et que franchement, 4 ou 5 fois, on a cru qu'il allait se faire décrocher, qu'il est remonté, qu'il ait mis tant de cœur. Et la première chose qu'il fait, c'est de remercier ses collègues. C'est un gamin, enfin, c'est un jeune que j'adore. Il est formidable.
Merci.
Et donc,
merci,
les Français nous ont rendus fiers. Et Pogacar a fait une énorme étape. Voilà. Mais les Pyrénées sont belles quand même. Hein. Profitez-en.
On va en profiter. Le président qui vient de descendre en hélicoptère, nous allons descendre en voiture, mais je pense qu'on n'est pas arrivé quand même à notre hôtel ce soir. Bonne analyse du président. Je ne sais pas si on lui explique le vélo, mais bon, dans la voiture de Christian lui explique comment ça se passe.
Oui. Ou alors il suit beaucoup le vélo et c'est plutôt pas mal comme analyse. Je pense que l'année prochaine, il peut remplacer Gégé Pinault. Pas moi, mais Gégé Pinault dans le camion.
Au moins,
ça
au
bien.
Moins. Ouais.
Très bien.
Moi, je ne prendrais pas sa place, par contre.
Non, sinon, t'as envie de descendre en hélicoptère, toi?
Ah si, dès que son hélicoptère avait dirigé le pays, je sais pas. Après, est-ce que ce serait plus le bordel avec moi qu'avec lui? J'en suis pas sûr.
Ouais, quand même.
je pense nous, quand même.
Nous, on a la réponse.
Ah ouais, vous êtes sûr de ça? Ouais. Ça pourrait être marrant, non?
Non. Non, je ne suis pas sûr. Non. Très bien. Poggi qui écrase donc la concurrence en épaillant ses rivaux dès la première étape de montagne. Les écarts sont abyssaux, on les a donnés tout à l'heure. C'est quasiment du jamais vu après une première étape de montagne. Ça rappelle les plus grands succès des plus grands champions et même les champions les plus sulfureux, mon cher Pierre-Yves.
C'est vrai que c'est pas facile hein, de retrouver les chiffres comme ça, mais le plus grand écart à Paris entre le premier et le second, c'est en 1958 qu'on le trouve. Fausto Coppi avait 28 minutes d'avance sur le deuxième, mais lors de la première grande étape de montagne à l'Alpe d'Huez, l'Italien n'avait pris que 1 minute 20 sur Jean Robic. Dans les années plus récentes, Merckx n'écrase pas non plus ses adversaires autant lors d'une première grande étape de montagne. Il y a toujours un Van Nimp, un Ocaña, un Thévenet pour le chatouiller un petit peu. Bernardino non plus, à la lutte avec les anciens au début de sa carrière, puis avec les Fignon ou Lemon. Non, le seul élément de comparaison intéressant, c'est ici, sur la pente d'Otakam, que je le trouve, lors de la 10e étape entre Dax et Otakam le 10 juillet 2000, il y a quasiment 25 ans jour pour jour, Lance Armstrong ne gagne pas l'étape, mais éteint la concurrence avec 4 minutes 14 d'avance sur Jan Ullrich et 5 minutes 10 sur Christophe Moreau au classement général. On est dans le tout début du Tour de France et après 10 jours, le Tour est également plié l'année suivante puisque Armstrong mettait 2 minutes au sommet de l'Alpe d'Huez à Ullrich et Bellocchi, l'Américain. Alors il sera ensuite effacé des tablettes, mais c'est vrai que depuis, on n'a pas vu une telle domination sur une première étape.
Même Chris Froome
de montagne.
N'arrivait pas à écraser la concurrence
non,
de la semaine.
Non, j'ai regardé les étapes, on n'avait pas des 2 minutes comme ça. À moins que messieurs vous souveniez de temps comme ça, mais
c'est vrai que les leaders du classement général adorent écraser la concurrence d'entrée, c'est-à-dire la première étape de montagne, c'est souvent le cas. Ils mettent cette étape
coche,
dans leur petit calepin, ils la cochent et très souvent ils la remportent.
Ouais, mais là, à coup de seconde, quoi.
Oui, à coup de seconde. Là, c'est plus à coup de seconde, c'est à coup de minute. Plus de minute.
Là, c'est à coup de minute. Après, on est aussi sur une arrivée à Otakam, qui le col fait 13 km, donc tu as aussi plus de temps pour. Enfin, de kilomètres pour reprendre du temps plutôt, mais comme tu dis Christophe, les favoris à la victoire au Tour de France ont l'habitude de taper un grand coup sur la table. Oui, Tadej Pogacar fait une performance énorme, mais Jonas Vingegaard n'est, je pense, pas non plus à son top. Je pense qu'il est moins fort que les années, et pourtant, C'est pas ce que j'ai dit, si vous réécoutez les bandes, il y a 10 jours, où je disais que je pense qu'il était plus fort que les 2 années où il avait gagné le Tour de France. Pourquoi je dis ça ? Parce que Lipovitz, derrière lui, a repris du temps à Jonas Vingegaard. Donc Vingegaard, en plus de perdre 2 minutes, il n'est pas au top. Il n'a pas finalement tant de marge que ça sur l'arrière. On pensait vraiment que les deux étaient au-dessus. On voit finalement que Tadej Pogacar est au-dessus de la mêlée, mais que derrière Vingegaard, Lipovitz et Only, finalement, ne sont pas si mal que ça. Oui, Tadej Pogacar fait une énorme montée. Vingegaard coince quand même vraiment beaucoup dans les 4-5 derniers kilomètres. Et finalement, on se disait que les deux premières places, on ne savait pas forcément l'ordre au départ de ce Tour de France, mais que les deux premières places étaient prises. On connaît la première. Pour la deuxième, on est moins sûr.
On a 2 courses, en fait, hein, c'est sûr. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus à
la deuxième place, et au premier français. Pogacar, 26 ans. 26 ans pour un coureur cycliste. Il est au sommet de son art aujourd'hui, Jérôme.
Oui, il doit l'être, pas loin, mais il peut y rester un moment parce qu'on n'a pas de déclin avant 32, 33. Mais le talent de Pogacar comparé à la, pas médiocrité, mais au niveau de ses adversaires, fait que les écarts sont abyssaux. Le seul coureur capable de jouer avec lui, on le sait, toute l'année, c'est Mathieu Van Der Poel. Sauf que Mathieu Van Der Poel n'est pas un coureur de grand tour, c'est un coureur de classique.
C'est un coureur de grand tour, mais pas pour les classements généraux. C'est un sacré coureur, on l'a vu encore depuis le début de ce tour, quand même.
Oui, pour le classement général. Donc après, quand on arrive dans la montagne, l'adversaire principal, c'est Vingegaard, qui, aujourd'hui, l'a montré, il n'est plus au niveau qu'il était en 2022. Donc à partir de là, évidemment qu'un Tadej Pogacar, qui est un surdoué du vélo, qui est, je rejoins Jérôme là-dessus, certainement l'un des plus grands de tous les temps, ou voire le plus grand de tous les temps, il n'y a pas d'adversaire à sa mesure. Donc vivement quelques années, peut-être, ou pas. Et on va peut-être vivre une surdomination de Tadej Pogacar pendant 5, 6, 7, 8 Tours de France. Parce que pour l'instant, quand on voit les écarts sur une étape, évidemment qu'on peut s'imaginer que Tadej Pogacar, à moins qu'il s'ennuie et qu'il décide de faire autre chose. Mais pour l'instant, il est surdominateur du Tour de France.
Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de l'étape et les 2 minutes et Tadej Pogacar va gagner le Tour. C'est de me dire, quand est-ce que d'une Tadej Pogacar va en avoir marre du Tour, de s'ennuyer, etc. Et plus pour Vingegaard. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir le dernier Tour de France de Jonas Vingegaard ? Parce que je disais au début de ce Tour que je pense qu'il était aussi fort, voire plus fort que les 2 années où il gagne le Tour. Mais mentalement, il n'est pas là, Jonas Vingegaard. Mentalement, il n'est pas là. On a parlé de l'interview de sa femme, etc. C'est quand même le bazar chez Visma Liesebike en interne, notamment à cause de cette interview. Et si, on avait dit, s'il prend une raclée de nouveau sur ce tour, ce qui est en train de se passer, c'est plus qu'une raclée, c'est une très belle fessée qu'il va prendre, je pense, d'ici Paris. Je ne suis pas sûr qu'on revoie Jonas Vingegaard sur le tour. Moi, si
donc,
j'étais...
Donc ça voudrait dire quoi ? Vingegaard, à 28 ans, arrête sa carrière parce
pas
qu'il
forcément,
a été fessé par Pogacar ?
Pas forcément, mais qu'il aille gagner d'autres courses. Il a déjà gagné
donc
deux fois
le tour. Donc il irait dans toutes les courses où n'est pas Pogacar.
Et bah ouais. Qu'il aille gagner un Giro, qu'il aille gagner une Vuelta, qu'il aille
là. À ce stade-là, ça veut dire que plus personne ne s'alignera sur le tour face à Pogacar.
Et du coup, Tadej Pogacar va dominer le temps, enfin jusqu'au moment où il va s'ennuyer et qu'il en aura marre et qu'il passera à autre chose. Mais c'est peut-être ça qui nous attend.
L'autre souci, c'est que les spectateurs s'ennuient.
Bien sûr.
C'est ça qui risque d'arriver, parce que là, en éteignant le tour dès la première étape, on voit bien les réactions aujourd'hui sur les réseaux, non, etc., mais... les messages qui nous sont envoyés.
Okay.
C'est bon, le tour est fini.
D'accord, mais tu peux pas en vouloir à Tadej Pogacar et son équipe. Eux, ils viennent pour gagner le tour. S'ils peuvent éteindre le tour, s'ils avaient pu faire ça à la deuxième étape, et pareil pour Vingegaard ou les autres, dès que tu peux éteindre le tour, t'éteins le tour.
Mais il y a un vrai danger
d'ennui. Mais même nous, en tant que commentateurs, on est là en haut d'Otakam, on veut la bagarre jusque dans les deux derniers kilomètres.
Ça veut dire que Pogacar, qui a été une formidable publicité pour le cyclisme,
va
pourrait devenir une publicité négative. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut prendre étape par étape et que le bouquin du Tour de France, c'est un roman et à chaque page son étape et à chaque étape son histoire. Moi, aujourd'hui, j'ai vibré avec Bruno Armirail. J'ai vibré d'avoir vu des coureurs se battre pour la 3e place, pour la 4e. Il y a une histoire à raconter chaque jour. Si on prend le classement général, évidemment qu'aujourd'hui, Tadej Pogacar est au-dessus. Mais on est surpris. Qui est surpris ? Les tweetos qui vont se déchaîner en disant que c'est pas normal, qu'il est trop fort. Mais quand il y a quelques années, sur des courses d'un jour, on avait un Julien Alaphilippe qui surdominait. On n'avait pas de problème non, avec ça.
Sur le tour,
finalement,
sur le tour, il y a un suspense jusqu'au bout.
Je ne veux pas entendre ce discours-là dans le sens où chaque jour il y a une étape et demain ce sera un contre-la-montre. C'est un peu différent, mais après demain il y aura encore une étape de montagne et si un Français l'emporte, et ben on va vibrer.
Non mais Jérôme, il y a un autre élément de comparaison et tu connais bien ce sport. En France, on a un autre élément de comparaison, c'est le Paris Saint-Germain, qui surdomine.
C'est le Paris Saint-Germain de la Ligue.
Voilà. Et donc, en fait, on ne s'intéresse plus, quand le championnat démarre, à celui qui va gagner. On sait qu'il va gagner.
Toujours on
s'intéresse au reste du championnat.
Mais c'est moins intéressant.
C'est moins intéressant.
Savoir qui va terminer le 2e ou 3e.
Alors, il faut créer un être, il faut demander aux Chinois, un bionique, pour essayer de concurrencer.
Ouais, ou on change le règlement. On lui fait partir avec 3 minutes de débours au départ et il doit rattraper ces 3 minutes. Tadej Pogacar. Non, mais c'est le risque quand t'as un surdoué d'une génération comme ça, ben, il va dominer son sport, il va dominer les courses, et le risque, c'est que ça crée de l'ennui.
Merckx l'a fait. L'avantage était devenu très impopulaire,
mais
justement,
bien
de par son écrasante domination
l'impopularité
sur le cyclisme.
Parlez-en à Eddy Merckx aujourd'hui, tout le monde se couche devant Eddy Merckx.
Mais bien
tout
sûr,
monde a
non,
un respect
après,
énorme.
C'est mais je sur pense le que les gens ont toujours du respect pour Gacha en disant que c'est un formidable champion, mais ils seront peut-être un peu moins intéressés
par le sport, quoi.
Par la compétition en elle-même, en tous les cas, pour le classement général, évidemment, tu le disais, on assistait à un formidable début de Tour de France avec des étapes incroyables. Et aujourd'hui, bah, finalement, dans les 5 ans à venir, il faudrait peut-être supprimer les étapes de haute montagne parce qu'elles tuent le suspense. Donc, revenir à des étapes de baroudeur comme celle à laquelle on a assisté hier. Ou
mais on ne peut pas en vouloir à Tadej Pogacar d'être trop fort, d'être un talent incroyable. Et d'ailleurs, on a eu une campagne de classique incroyable parce qu'il y avait Tadej Pogacar. Pas parce qu'il y avait Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, il aurait dominé les classiques sinon. Tadej Pogacar est là, même sur Paris-Roubaix, même sur la classique de Mathieu Van Der Poel, il l'a quand même mis dans les cordes. Donc Tadej Pogacar, oui, sur le Tour de France, peut-être il tue le suspense, il tue le vélo, mais sur les classiques, grâce
oui,
à lui, on a une campagne de classiques incroyable.
Mais tu sais bien qu'en France,
oui, mais on prend une année complète. Nous, on se focalise sur le Tour de France, le Tour de France, le Tour de France.
C'est bien que le Tour de France domine tout le reste.
Amplifie
et pour
tout,
le grand public, là tu parles de course d'un jour qui intéresse en partie le grand public, mais surtout les connaisseurs de cyclisme. En matière de tennis, par exemple, on a eu d'immenses champions, et on en a encore de nouveaux qui arrivent. Mais il y a toujours une concurrence, il y a une vraie rivalité, et les mecs se tiennent à pas grand-chose. Là, aujourd'hui, il est au-dessus de la mêlée, largement au-dessus sur les courses, les grands, et notamment le Tour de France. C'est en ça que ça peut-être être négatif pour le vélo.
Si ça lasse les gens et que c'est négatif pour les gens, bon, on le verra vite et peut-être qu'il faudra trouver des solutions à cela, mais Que peut-on faire ? Faire un Tour de France moins long avec une dernière semaine seulement en montagne ?
Tu ne peux pas modifier le Tour de France, la topologie, la durée d'étape pour Tadej, enfin, ou à cause ou grâce à Tadej Pogacar. Le Tour de France, c'est 3 semaines, c'est des étapes de plaine, c'est de la bordure, c'est des chronos, c'est des étapes de montagne, etc. Il est là, il domine, il dominera pour le temps qu'il a décidé ou le temps de sa carrière. Mais c'est comme ça, on va pas modifier quelque chose parce qu'on a un coureur qui domine tout. Ça serait n'importe quoi. Le Tour de France, ça reste 3 semaines. On en parle de faire des grands tours de 2 semaines. Ça, je suis complètement contre. Le Tour de France, c'est 3 semaines. Et si on faisait 2 semaines cette année, par exemple, ou l'année dernière, ça changerait rien à la fin du film.
Peut-être qu'il croit qu'il
n'y
a que 2 semaines, d'ailleurs.
Ouais.
C'est peut-être ça le problème.
En direct de Hautacam, au terme de la première étape de haute montagne de ce Tour de France, la victoire de Tadej Pogacar, qui ne souffre d'aucune contestation. Il a écrasé la concurrence aujourd'hui, et notamment donc celui qui résistait depuis quelques saisons, qu'il avait battu à 2 reprises, on le rappelle, sur le Tour de France, et dont il a voulu prendre sa revanche aujourd'hui. Ce garçon, c'est Jonas Vingegaard. Vingegaard, dont on disait hier qu'il fallait tout tenter aujourd'hui, qu'il fallait essayer de mettre à mal Pogacar pour savoir s'il allait se ressentir des effets de sa chute. C'est ce qu'a fait la Visma, Jérôme, mais ça leur est revenu en pleine poire. En pleine poire, ils ont explosé comme du pop-corn, nos amis frelons de la Visma. C'est plus des frelons, c'est des petites guêpes.
Des petites mouches. Ouais, on peut pas leur reprocher, par contre, à la Visma Isobike d'avoir essayé. Autant, des fois, on les critique, là, il fallait essayer. On savait pas dans quel état allait Tadej Pogacar. Par contre, le seul petit reproche que je peux leur faire, c'est au moment où Campanaerts roule dans le col du Soulor, qui fait sauter Jorgensen et Simon Yates. Là, il paraît, apparemment, d'après les rumeurs de fond de ligne, que Jorgensen aurait dit à Kampenaerts qu'il faut ralentir. Il faut ralentir, ça va trop vite. Il n'a pas ralenti tout de suite. Il les a fait sauter. Ensuite, ils sont revenus, mais le mal était fait. Tadej Pogacar et son équipe ont vu que Matteo Jorgensen et Simon Yates n'étaient pas top. Donc là, c'est fini déjà. Une fois que tu as remarqué ça, c'est mort. Tu sais que le premier lieutenant de Jonas Vingegaard n'est pas bien. Donc tu sais que tu as un coup d'avance. Après, ils ont ralenti le tempo et Jorgensen a pu revenir. Mais on a vu, même nous, on l'a vu en direct que Jorgensen, ça n'allait pas. Ensuite, ils ont tout misé sur Jonas Vingegaard et dès le pied, ben voilà, on a compris qu'il n'allait pas être dans le jeu.
Tiens, Pavel Sivakov, équipier de Tadej Pogacar, était justement à l'avant du peloton au moment où s'est produit ce fait de course. On l'écoute.
Voilà, Tadej voulait gagner. Après, je pense que la Visma, on fait le boulot pour nous au final. Kampenaerts a mis tout le monde dans le rouge, dans l'oblige. Il y avait même Jorgensen qui lui disait de ralentir, il n'a pas ralenti. Au final, je pense qu'ils se sont mis un peu une épine dans le pied et voilà, il aura sûrement manqué des coureurs dans le final. Donc voilà, pour nous, c'est une bonne journée, pour eux, moins.
Ils ont travaillé pour Pogacar aujourd'hui, les
Vingegaard. Ils ont fait le jeu, en tout cas, de Pogacar, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il manque Jorgensen à son prime, Yates à son prime, Sepp Kuss qui est que l'ombre de lui-même. Donc à un moment donné, il manque Van ces Aert. Coureurs-là. Ouais, Van Aert qui est pas là. Donc ça fait beaucoup trop de manque et de manquements.
Mais ça n'aurait rien changé.
Pour essayer de au moins de faire vaciller, même si dans le one-to-one, on a les deux leaders et énorme échange.
On se posait la question écart. S'il avait besoin de vraiment besoin d'équipiers.
Narvaez, il lui a fait un beau pied quand même.
Bah, Narvaez,
c'est Wellens, moi je trouve qu'il est énorme.
Alors Wellens, mais Narvaez, si on prend que le pied d'Otakam, Narvaez a fait ce que Wout van Aert a fait en 2022. Mmh. En fait,
ça n'a pas duré très longtemps. Narvaez.
Bah non, mais t'as vu le coup de pétard qu'il a mis. Parce que Adam Yates, après la ligne, a dit à Mauro Gianetti, Johnny, ça doit être le surnom de Jonathan Narvaez, il a dit, il m'a fait péter les cannes. On a vu Adam Yates, il n'a pas pris un mètre de relais. Il était dans la roue de Narvaez, c'est lui qui allait devoir démarrer une fois que Narvaez allait s'écarter. Il n'a pas pu. Donc Narvaez était très fort aujourd'hui. Oui, les équipiers ne sont pas au top. Ça n'aurait rien changé au final, je pense. Mais Visma Liseberg ne peuvent pas le savoir au départ. Au départ, pour aujourd'hui, la stratégie était très bonne. Ils ont un mec devant, ils ont roulé d'elle sous l'or pour essayer d'user les coéquipiers de Tadej Pogacar et Tadej lui-même. Ça n'a pas marché. Ben voilà, ils ont battu par
contre. On peut que constater que un Jorgensen, il est en dessous de son niveau attendu.
Aujourd'hui, ouais.
Il pète, il pète dans le sous l'or, il attend, il revient, il pète tout de suite. Même dans le col de deuxième catégorie, il était aussi en difficulté. C'est dire si dans cette équipe qui, a priori, c'est tout programmé, on a des plans, on maîtrise tout, bah là, on s'est planté. Enfin, ou alors, j'y comprends plus rien. Mais il a manqué quand même pas mal d'hommes.
Mais moi, je trouve qu'en face, alors certes, on a cité deux coureurs, mais c'est pas non plus finalement extraordinaire.
C'est un coureur qui a écrasé.
Parce qu'Almeida a abandonné.
C'est un coureur qui a écrasé. C'est pas une équipe aujourd'hui. C'est Tadej Pogacar qui a dit... Moi, je vais vous assommer. Terminé.
Ouais, mais l'avantage qu'a eu Tadej Pogacar aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas eu à faire rouler son équipe. Donc, ils avaient mis Tim Wellens à l'avant. Comme Visma Liseberg ont pris la course en main derrière pour essayer de renverser Tadej Pogacar, eux n'ont pas roulé. C'est vrai qu'il y a eu quelques trous d'air dans l'équipe UAE, notamment Pavel Sivakov, le Français qu'on a entendu. Mais finalement, ils n'ont pas eu à prendre la course en main. On aurait aimé voir... la réaction du AE s'ils avaient dû prendre la course en main complètement, quel était vraiment le niveau des coéquipiers de Tadej Pogacar. Mais après, dans Otakam, de toute façon, c'est à la pédale.
Il y a des chiffres qui ne trahissent pas et qui traduisent beaucoup de choses et certains traînent sur les réseaux. Sur les 5 derniers kilomètres, un garçon comme Jonas Vingegaard a perdu 1 minute sur Tadej Pogacar. Tandis que Lipovic n'en a perdu que 15 secondes. Ça veut dire aussi que c'est aussi le Danois a plié. Pogacar est très
sûr
fort,
que quand tu vois Pogacar qui s'éloigne petit à petit de toi, déjà qui te plante un coup de couteau en s'échappant à 11 km de l'arrivée, alors que tu t'attends pas forcément à ce qu'il parte si loin, que derrière t'es informé des écarts qui... Ça lui a pété dans la tête, je pense, au bout d'un moment, dans les jambes tout, dans les d'abord, aussi, mais dans la tête souffrir, après.
En fait, on cherchait un élément de comparaison tout à l'heure, et moi, ça me rappelle le Tour 2021 de Tadej Pogacar, où on disait en fait, il a même pas besoin d'équipe. À la 8e étape, le Grand Bornand, vous vous en souvenez, il ne gagne pas ce jour-là, Tadej Pogacar. Mais il finit à 50 secondes de Dylan Teuns qui s'impose. Vingegaard est à 4 minutes 09. On n'est qu'à la 8e étape et il a pris un éclat déjà majeur. Le Tour, en fait, est déjà plié en 2021. Dès cette première étape,
mais
ça, ça y ressemble.
En 2021, ce n'est pas Primoz Roglic le leader sur le papier. Donc,
Primoz Roglic, il est encore plus loin ce jour-là.
Bah, c'est là que le leadership bascule. Bah,
on avait vu sur ce Tour de France-là une très très belle dernière semaine de Jonas Vingegaard.
Voilà, mais c'était justement le plan ou une des parties du plan de Visma Liseberg, et en tout cas c'est ce qu'il nous disait, c'est nous, Jonas Vingegaard est fort en haute montagne et fort en troisième semaine. Bon, là, il aura beau être fort tout ce qu'il veut en troisième semaine, le jeu est plié déjà, c'est terminé.
Ça n'empêche que nous, on en conclut ça, mais après-demain, dans la deuxième étape pyrénéenne, après ce chrono, je suis persuadé qu'ils vont remettre le plan en place et qu'ils vont continuer de le harceler.
Justement, j'espère que Vingegaard ne va pas complètement lâcher l'affaire et qu'il va essayer d'aller gagner des étapes, qu'il va essayer d'aller faire quelque chose, qu'il ne va pas débrancher dans la tête.
On va écouter Remco Evenepoel, considéré comme le troisième homme, et qui a toujours un avis
tranché, musclé.
Voilà, il pourrait être une grande gueule du sport ou faire partie de l'after tour. Remco Evenepoel, donc, sur la tactique des Visma aujourd'hui.
Ah, c'est clair que Tadej, il était encore au-dessus de tout le monde. Et ce que j'ai vu, c'est que les gars de Visma lui ont donné un assist. Hein. Je pense qu'ils doivent arrêter de faire ça parce que Tadej, il est juste plus fort que Jonas. Donc c'est clair que peut-être le Tour, il va changer de mentalité, des esprits pour comment attaquer les finales. Donc on verra comment ça va se passer, mais je pense que le maillot jaune, il est assez loin et puis le reste, ça va se jouer encore, je pense.
Voilà, Remco qui nous explique effectivement que pour la victoire finale, c'est plié, mais qu'en revanche, il y aura de la bagarre pour la deuxième et les troisième places. On verra ce que va faire Vingegaard s'il a récupéré demain, notamment dans le contre-la-montre. On va écouter quand même son manager, Grisha Neerman. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il après ce coup de Trafalgar subi par son leader, Jonas Vingegaard? On l'écoute.
Jonas était le meilleur sur les autres jours, mais Tadej était clairement le meilleur aujourd'hui. C'est la réalité. Demain sera peut-être différent, mais pour aujourd'hui, c'est sans appel. Je n'ai pas d'explication sur pourquoi ça s'est passé comme ça. Matteo a tout d'un coup été arrêté, il l'a dit sur la radio. Mais je ne savais pas avant qu'il ne dise qu'il n'était pas en bonne santé. Et bien sûr, nous avons dû changer notre stratégie et ralentir. Mais au final, ce qui a eu lieu aujourd'hui, c'est que Tadej a gagné.
Il est hors sol, Grisha, là. Il a fumé la moquette ou peut-être l'herbe de Otakam. Jonas était supérieur à Tadej les jours précédents.
Je suis pas convaincu de la traduction.
Ah, c'est d'accord.
Non, il a dit il était le meilleur des autres, le meilleur du reste.
Ah oui.
Donc le meilleur derrière Tadej Pogacar.
Le meilleur du reste, il dit exactement.
Ce qui est vrai et pas vrai. Oui, il fait deuxième de l'étape, donc il est le meilleur du reste. Mais GG a donné les temps, par exemple, des 5 derniers kilomètres. Si on prenait le temps de monter, Lipovic fait pas un meilleur temps, mais une meilleure fin de montée que Jonas Vingegaard, par exemple. Je pense quand même que si le Danois pète pas dans la tête, il terminera deuxième de ce Tour de France parce qu'il a quand même un peu plus de classe et de capacité que les autres. Mais pour la deuxième place, c'est quand même pas sûr. Autant l'année dernière, c'était clair et net. Cette année, je suis quand même
pas sûr.
Ni pour
la deuxième, ni pour la troisième,
bien sûr.
Il y a quand même des jeunes loups qui ont envie. Et quelque part, qui vont continuer à mettre la pression aussi sur Vingegaard, qui venait dans une optique et unique idée, c'est de mettre à mal Pogacar. Là, il a pris la première fessée, il risque d'en reprendre une autre ou deux. Peut-être que dans sa tête, ça va être plus dur. Tandis que des jeunes comme Lipovic, Only, Vauclin, il ne faut pas l'oublier, et Remco Evenepoel, eux vont peut-être... Pour Remco, faire deux, c'est mieux que l'année dernière. Hein.
Oui, pour Remco, il y a un petit peu moins de marge, une 14. Mais pour les autres, il y a quand même 2 minutes. Il a encore un petit peu de sécurité. On verra demain s'il arrive à recroiser un peu.
Ça va dépendre de ça.
C'est vraiment dans la tête.
Il reste devant tout, il reste les Alpes, il reste encore une étape dans les Pyrénées. Ça peut être très long pour Vingegaard.
C'est là-haut que ça va se jouer très certainement.
Peut-être que si on se dit maintenant, je me concentre sur la deuxième place, j'essaye plus de suivre.
Alors là, on va se faire chier. Parce que si Vingegaard pense déjà à la deuxième place ce soir, alors là, on va s'ennuyer
Les étapes seront peut-être plus ouvertes parce que défendre une deuxième place, ça veut dire qu'il va falloir garder ses gars autour de lui. Moi, je pense que Grisha Neerman, c'est sa déclaration, même si la traduction est à peine juste. Il va penser surtout à mobiliser et à rester mobilisé autour de Vingegaard parce que moi, je suis Jorgensen demain. Aujourd'hui, j'étais les deux pieds sur la même pédale. Demain, je fais le chrono et puis après demain, la tactique de faire deux du tour, j'en ai rien à secouer. Je vais essayer d'aller gagner une étape. Il peut le faire.
Ben bien sûr.
Il part de loin dans une étape. Sûr.
Oui, est-ce que Simon Yates doit déjà se tourner vers un autre objectif?
Alors, à si savoir les autres se tournent d'étape. Pour faire deux, si les autres se tournent pour faire deux, ça va être bien.
Mais, non, mais ils doivent. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner maintenant? Le tour, c'est terminé. Voilà, ils ont tout à perdre. Maintenant, il faut aller gagner des étapes. Et on va se rappeler peut-être de la Visma Liseberg à Paris parce qu'ils ont gagné 3 ou 4 étapes du tour. Mm-hmm. Bah, malheureusement, c'est une équipe qui visait le classement général du tour. C'est terminé. Ah oui. Même si Tadej Pogacar n'est pas à l'abri non plus d'une défaillance, mais quand tu as 3 minutes 30 d'avance, tu peux voir venir quand même. Eh bah, bien, tant pis, Visma Liseberg. Le général, c'est terminé. On va essayer d'aller chercher des étapes. Et si tu gagnes 2, 3, 4 étapes, peut-être même avec des coureurs différents, bah, tu marques aussi le Tour de France.
Mmh. Alors, Vingegaard, on l'a dit, Evenepoel a une 14 de Vingegaard. Et Lipovits, qui a quand même été le grand bonhomme, l'un des grands bonshommes du jour aujourd'hui, qui pointe à la 4e place au général, à un peu plus de 2 minutes de Vingegaard, mais 2 minutes devant son leader de départ, à savoir Primoz Roglic, qu'on a senti dans une bonne forme en début d'étape et un peu moins bien, il faut bien le dire. Ensuite, le leadership de la formation Bora aujourd'hui a changé d'épaule, messieurs.
Oh bah c'est sûr.
Donc ça veut dire que Primoz Roglic n'est plus le patron.
Non.
Il a été viré, enfin il est parti de Visma parce qu'il n'était plus le patron. Bien. Là, il va peut-être partir de Bora pour aller où?
Quand il va partir, ça sera comme dit Gégé pour mettre ses savates et pour rentrer à la maison.
La mini soquette déjà aujourd'hui.
Non, il les avait pas mises justement. Il n'avait pas mis les chaussettes. Non, mais ben là. De toute façon, quand vous partez au départ d'un tour avec deux leaders, à un moment, c'est à la pédale que ça se fait. Et quand ça se décide à la pédale, eh ben, c'est le mieux classé qui prend le leadership. Oui, oui. Donc là, c'est Lipovits.
Je pense que ça ne s'est pas fait en plus avec de la tension. Parce que déclarations à l'arrivée, il a dit, voilà, j'ai essayé de démarrer. Honley a suivi. Primoz n'a pas suivi. Maintenant, ça ouvre des opportunités. Ça ouvre aussi des opportunités éventuellement à Roglic.
Ils peuvent jouer à deux. Roglic peut gagner une belle étape de montagne.
Bien sûr.
Finir sur une bonne note ce Tour de France parce qu'il est quand même là. Il n'est pas complètement à la ramasse. Maintenant, on l'a pas senti hyper impliqué non plus. Il est là. On sent qu'il vivote dans ce tour et que la passion Tour de France est l'objectif ultime de sa vie. Elle est un peu passée quand même.
Et Red Bull, Bora doivent absolument se concentrer sur Lipovits parce que Roglic, c'est pas l'avenir. C'est pas l'avenir de leur équipe. Lipovits, c'est l'avenir de leur équipe.
Il est allemand, c'est une équipe allemande.
En tout cas, à court terme, on dit que Remco Evenepoel
24 ans, Lipovits, ouais. C'est le même âge que vous.
On dit que Remco Evenepoel va peut-être signer chez eux, etc., etc. Mais en tout cas, l'avenir, là, à court terme, tant qu'ils n'ont pas signé Remco Evenepoel, c'est Lipovits. Donc, il faut tout mettre sur Lipovits et ils peuvent jouer avec Roglic, l'envoyer gagner une étape, l'aider. Roglic, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas de problème pour partager son expérience, pour se mettre au service des autres. On l'a vu à la Vuelta avec Sepkus, même s'il a fallu que le staff le force un peu, il le fait quand même. Donc là, si j'étais manager chez Red Bull Bora, je mettrais tout sur Lipovits.
Lipovits, un petit mot quand même de ce garçon de 24 ans, qui est l'une des révélations de ce Tour de France, sinon la révélation avec Kevin Vauclin, au même niveau, ils ont le même âge.
Et Only.
Et Only, ouais.
Et profil ressemblant à celui de Primoz Roglic, parce qu'il vient du ski et du tir. Il a commencé ce sport à 8 ans et jusqu'à 19 à peu près. Il a même été champion national U16 du sprint et de la poursuite. Il est biathlète au départ. Et puis, il y a une blessure au genou. Il se fait une déchirure des ligaments croisés qui l'oblige à faire du vélo, en fait, pour récupérer, pour s'entraîner. Et il en fait de plus en plus. Et puis, il rencontre Dan Lang, qui est le directeur de la performance de l'équipe Bora, Hans Grohe, qui lui fait passer des tests et qui lui dit, mon gars, change de sport. Change de sport. Et résultat, eh bien, dès 2023, il remporte sa première course par étape, le Tour de République tchèque. Et puis, il a vraiment très vite progressé, puisque en 2024, il fait Giro Vuelta. Sur le Tour d'Italie, il prend la 5e place dès la 2e étape. Et puis, il abandonne le lendemain pour une chute. Et puis, 3 mois plus tard, en Espagne, eh bien, il passe encore un cap en se classant 7e du général. Et puis là, en 2025, il a quand même fait 2e de Paris-Nice. Et puis, sur le Dauphiné, il est 3e au mois de juin. Donc, il est dans une courbe ascendante, véritablement.
Juste un petit mot, on avait fait des pronostics sur le podium du Tour de France avant le départ de Lille. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez comme podium dans 10 jours à Paris?
Moi, je vais rester sur Pogacar, Vingegaard et Remco Evenepoel. Parce que si aujourd'hui il a eu un jour
traditionnel.
Tradition, parce que si Remco Evenepoel a eu son jour sans aujourd'hui, vu comment il a sauvé les meubles, à mon avis, ça peut le faire.
Demain, on rappelle que demain, on sera sur son terrain, même si c'est un contre-la-montre en montagne. Jérôme, tu restes sur ce... Enfin, toi, t'avais dit Vingegaard quand
même. Ouais, j'avais mis Vingegaard vainqueur.
Ouais, ça, c'est mort. Ça va être compliqué.
Sur le podium, c'est encore faisable. Mais au jour d'aujourd'hui, ce soir-là, au Takam, Pogacar, Vingegaard, je pense aussi. Maintenant, moi, je mettrais Florian Lipovic.
À la troisième place. Ouais. Tu penses qu'il peut prendre le meilleur?
J'ai pas l'impression que Krem ait un mental d'assassin et que il faudrait pas une deuxième journée.
Aujourd'hui, il a prouvé un sacré mental quand même.
Ouais, il a... ouais, ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a pas tout pour finir sur le podium, contrairement au petit Lipovic qui aujourd'hui a montré qu'il était quasiment aussi fort que Vingegaard, aussi fort que Tadej Pogacar sur les 5 derniers kilomètres. S'il continue de progresser, il a la jeunesse, il a l'envie, il peut aller gêner. Demain, il sera pas désavantagé non plus, hein, Lipovic sur le chrono en côte. Donc ça peut être la belle surprise de ce tour.
Très bien, bah nous verrons ça et on verra à partir de demain. On va continuer d'évoquer cette 12e étape du Tour de France. On va parler des Français, de Kevin Vauclin, de Bruno Armirail, qui a été formidable aujourd'hui. Et puis on s'intéressera donc à ce contre-la-montre demain entre Lou Danviel et Peyre Aguilhe. Ce sera dans un instant dans l'After Tour, toujours en direct d'Otakam. A tout de suite sur RMC.
J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Je te dis, c'est... Une seconde, ça a pris une seconde. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savantes et terminer bonsoir, quoi.
Toujours en direct d'Otakam, après cette 12e étape et le succès de Tadej Pogacar qui s'impose. Dans un instant, on va parler des Français. Juste quelques chronos qui viennent de nous être communiqués. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on on pensait que le record de la montée d'Otakam allait être battu. Or, c'est un record qui date de 1996 et qui avait été établi par l'un des plus grands dopés de l'histoire du cyclisme, à savoir Bjarne Riis, qui avait remporté cette année-là le Tour de France et qui avait escaladé donc Otakam en 34 minutes 40. Eh bien, Pogacar ne l'a pas battu.
En fait, il était en avance jusqu'à la moitié à peu près de la montée. Et puis, quand les pentes se sont avérées plus difficiles,
puis,
il a été moins vite.
Un gros écart, peut-être qu'il a un peu
géré.
Ralenti, un peu géré.
Peut-être.
Le deuxième temps de l'histoire, c'est Luc Leblanc en 35-19 en 95, devant Miguel Indurain 35-20 en 94. Et donc, notre ami Tadej Pogacar est monté aujourd'hui en 35 minutes 21. Juste le temps de Vingegaard, qui en 2022, lorsqu'il avait battu Pogacar, était monté en 36 minutes 35. Là, il est quasiment une minute de plus, hein, 37-31. C'est dire
ça prouve
l'état
qu'il
de sa
était
performance.
Pas non plus dans un très grand genre.
Ouais. Et juste un dernier chiffre amusant, 117e étape du Tour pour Tadej Pogacar, il est à 20 victoires, ça fait 17% de victoires quand il est au départ d'une étape du Tour, c'est quand même énorme.
Alors, un petit mot des Français tout de même, et notamment de Kevin Vauclin, 6e de l'étape à 3 minutes 33 de Poggi, il reprend une place au général, il se hisse au 5e rang, un Kevin une nouvelle fois épatant, et il s'épate d'ailleurs lui-même, on l'écoute.
Je commence à mieux appréhender la montagne. Après, j'ai fait un long stage altitude à Isola 2000 où j'ai dit que je travaillerais vraiment cette filière-là. Voilà, tous les jours à monter le col, à hyper régulièrement et vraiment essayer de m'améliorer sur ce point et mentalement surtout. Je me rends compte que c'est barrière mentale. J'aurais été moins bien placé, peut-être que j'aurais été plus loin. Si on m'avait pas autant motivé à l'oreiller, peut-être que j'aurais été plus loin. Et je sens que c'est la barrière mentale qui saute. Et c'est ça fait vraiment du bien, je suis content. Depuis le Tour de Suisse, je passe les steps et je suis vraiment heureux de pouvoir vraiment passer ces steps-là. Et ouais, c'est vraiment, je suis vraiment content, vraiment.
Vraiment content et on le comprend, Kevin Vauclin, il nous épate depuis le départ de ce Tour de France. Il n'est peut-être pas au niveau de Poggi ni de Vingegaard, mais il s'accroche. On le voit de temps en temps décrocher, il revient avec l'énergie du désespoir quelquefois.
De l'espoir,
De l'espoir.
De l'espoir de se rapprocher du podium. Et il le dit comme quoi la tête guide les jambes, hein, quand même. On a beau s'entraîner comme on veut, il dit si j'étais moins bien placé, j'ai vraiment passé un step mental, j'ai bien travaillé en stage, etc. Il parle de cette filière. La filière, c'est le seuil, c'est la zone 4, c'est ces allures où qu'on peut tenir 45 minutes, une heure, donc c'est montée de col. Il a dit j'ai beaucoup travaillé ça en stage à Isola 2000, et ben ça paye, et surtout t'es dans le jeu pour jouer devant, et les cinquièmes au classement général, eh ben la tête, quand même, ça te tient un petit peu plus loin. Tu vas un petit peu plus loin dans l'effort. On parle souvent de le maillot jaune donne des ailes, mais quand tu joues à très bon classement... Ouais, ça rend fou aussi. Mais quand tu joues un bon classement général, eh ben, tu vas plus loin dans la douleur. Peut-être que s'il était 25e au général, il aurait pété plus tôt et ça aurait été un problème mental.
On se posait la question l'autre jour de savoir s'il fallait qu'il joue le général. Aujourd'hui, les cinquièmes, est-ce que ce top 5, vous y croyez ou ce sera plutôt un top 10? Qu'est-ce que tu en dis?
Top 10, c'est génial et top 5, c'est exceptionnel. Et il est encore cinquième ce soir. Il a montré dans cette bulle de 3 à 4 à 8-9, ça va être très serré. Ça va être celui qui va être le plus courageux, qui va être le plus, qui va aller le plus loin dans le mal, qui va être le plus régulier aussi. Demain, il y a un chrono. Il va être très bon au chrono, j'en suis sûr. Il est capable de faire dans les 5 premiers du tour, 5e, plus, bah, tant mieux, on espère que ce sera encore mieux. Mais dans le top 10 ce soir, clairement, il fait partie des grands prétendants à ce top 10. Ça va jouer dans la tronche et il est fort dans sa tête.
Moi, ce qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est comme pour Remco, sa capacité à s'accrocher, gérer. Parce qu'il a souvent été décroché. Mmh. Il a souvent été avec Remco, d'ailleurs. Il partira à 16h57 demain pour le chrono.
Très bien. L'autre héros français du jour se nomme Bruno Armirail. Épatant lui aussi. C'est lui qui a engagé l'ascension de Takam en tête quand même. Hein. C'est pas rien pour un garçon qui a de bonnes références en montagne, mais qui n'est quand même pas du niveau des grands cadors, qui nous avait déjà régalé lors du chrono de Caen en terminant quatrième. Évidemment, lorsque Poggi a accéléré, son avance a fondu plus vite que neige au soleil. Mais il a été porté par la foule. On rappelle qu'il est de Bagnères de Bigorre, c'est à côté d'ici, dans les Pyrénées. Et il était ravi, évidemment, sur la ligne et sur le podium, puisqu'il est monté sur le podium, récupéré le prix du combatif de l'étape. On écoute tout de suite Bruno Armirail.
Aujourd'hui, tout était aligné, donc c'est cool. Il manque juste la victoire au bout. Mais bon, il faut être réaliste. Avec 2 minutes, je savais très bien que ça allait être compliqué. Mais il faut y croire un tout petit peu quand même, parce que sinon, on se relève de suite. Hein, donc, voilà. Mais c'était vraiment un moment exceptionnel avec tout le public qui m'a encouragé. Et ouais, vraiment à la maison, avec une très belle météo, c'était exceptionnel. Bon, voilà, j'ai pris du plaisir avec tout le public. Franchement, c'est toujours plaisant d'être à l'avant sur le Tour de France. Et en plus à la maison, donc ouais, ça c'est exceptionnel.
Exceptionnel donc pour Bruno Armirail qui termine un peu plus loin, évidemment. Derrière, il a un peu laissé.
Il a dévissé, mais c'est normal.
Il est quand même arrivé en haut avec des formidables encouragements du public qu'il a vraiment porté. Est-ce qu'il peut espérer demain sur le chrono de Caen? Le chrono de
il a Peyragudes, fait un très bon chrono à Caen.
Quatrième à Caen, est-ce qu'il peut faire aussi bien demain à Peyragudes? C'est pas tout à fait le même parcours. Hein.
C'est pas le même profil, ça sera tout en montée et surtout, faudra qu'il ait récupéré de son étape d'aujourd'hui. Ça me paraît compliqué de faire top 4. Après, un chrono reste un chrono. Quand vous êtes un spécialiste, que ça soit le profil de Caen ou un chrono en montée, on a vu qu'il grimpait très bien. Il peut faire une très bonne performance. Top 5, ça me paraît compliqué. Top 10, pas impossible s'il a bien récupéré d'aujourd'hui.
Ouais, le chrono va jouer sur la récupération par rapport à l'étape d'aujourd'hui pour tout le monde, hein. Devant comme derrière, et pour les spécialistes et les non spécialistes, un garçon comme Kevin Vauclin, on en parlait, peut aussi faire un super chrono. Il faudra avoir récupéré sur de l'étape d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça a été une étape très très difficile une fois de plus.
Très bien, demain donc ce contre-la-montre entre Loudenvielle et Peyragudes.
Juste une déception du côté des Français, c'est Lenny Martinez. Il partira à 14h28 et il aura une moto derrière lui, celle de Jérôme Coppel.
La moto de Jérôme Coppel qui va batailler donc dans ce contre-la-montre. Il portera a priori encore le maillot à poids, parce qu'il est à égalité de points avec Pogacar, même si c'est Pogacar qui l'a reçu tout à l'heure sur le podium. Merci à tous, on se retrouve donc demain à 14h pour ce contre-la-montre entre Loudenvielle et Peyragudes.
Ciao.
Soirée messieurs, bonne descente, hein. On n'est pas rendu tout de suite. C'est l'Afterfoot et c'est avec Nicolas Jamin. À demain 14h, ciao.
RMC, l'After Tour.